Et on a parlé de zéro artificialisation nette. D'accord ? Il y a un autre aspect qui est assez paradoxal, c'est que aujourd'hui l'État souhaite que l'on urbanise, qu'on densifie les zones urbanisées existantes. Ce qui, pour les territoires de montagne, pose un énorme problème. Donc, un exemple typique. Aujourd'hui, vous avez des zones de chalets sur le Caron, le Pernant, le Cerveret, qui ont des zonages aujourd'hui qui permettent aux promoteurs de racheter un chalet, de le raser et de faire aujourd'hui des programmes avec 20-25 appartements. Ça, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que l'État continue potentiellement de nous laisser faire ça. Or, nous, on pense qu'il ne faut surtout pas que ça se passe comme ça. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'une des raisons majeures des gens qui viennent chez nous, le viennent aussi pour l'identité du village. Alors, l'identité derrière l'identité, il peut y avoir l'identité flénoise. Les gens vont à Flène parce que Flène a des caractéristiques spécifiques. Station piéton, station d'altitude, et pour autant, ils ont une architecture qui est plutôt une architecture en hauteur. Sur les carreaux, c'est complètement différent. Les gens viennent aux carreaux parce que, entre autres, il y a une identité de village savoyard, authentique, de village sympa, etc. Donc imaginons que si on suit directement les directives de l'État, on se retrouve avec le Pernant, dans 20 ans, il n'y a plus de chalet. Et il y a des immeubles de 20 appartements. À quoi va ressembler aujourd'hui notre village dans 20 ans si on ne fait pas attention à ça? Donc dans notre futur PLU, on va aller plus loin que ce que nous demande l'État, en particulier sur ces zones, comment dire, d'habitat chalet. Donc demain matin, le règlement de zone qu'on va opérer sur ces zones pour préserver notre identité, il ne permettra plus. Ah, ils pourront toujours éventuellement réagir à chalet, mais ils ne pourront reconstruire derrière que des immeubles, on va dire, qui seront de la taille d'une ferme. Donc d'y mettre en gros 4 appartements dedans. Donc ça, ce sujet-là, pour nous, il est vachement important. Et encore une fois, ça fait partie des ajustements du fameux zéro artificialisation net. Et notamment, par exemple, ce cas de figure nous préoccupe et nous a beaucoup préoccupé, raison pour laquelle que sur ce sujet-là, on va aller plus loin que ce que l'État nous impose. Ça, c'est le premier point sur la préservation de l'identité village, ramener l'attractivité, j'ai envie de dire, qu'on doit garder à 20 ans sur le territoire. Et là aussi, on se rend compte qu'aujourd'hui, cet outil, le PLU, le PNDD, sont les armes structurantes de la vision que l'on veut opérer pour notre station. Préserver les espaces naturels, évidemment. Donc il y a aussi un projet qui a fait couler beaucoup d'encre, c'était la création du golf sur les fameux communaux. Donc aujourd'hui, nous, on avait déjà pris position sur le fait qu'il n'y aurait pas de golf sur les communaux et que cet espace serait préservé en espace naturel. Donc là, il n'y a pas de souci. Le PLU veillera à ce que ça soit le cas, et que ça soit le cas durablement. Alors ce projet, il était clivant, il y avait les pour, il y avait les contre, etc. Bon, voilà. À un moment, on prend des positions, et on essaie de construire des projets qui soient le plus cohérents par rapport à la logique de vision. Alors, lit chaud versus lit froid. Donc là aussi, notre PADD, pour ceux qui ont pris le temps de le lire, je rappelle que ce PADD, il est disponible en lecture publique. Donc pour vos longues soirées d'été, vos longues soirées d'hiver, vous pouvez vous le palucher, il n'y a pas de problème, vous y verrez des choses extrêmement instructives. Et dans ce PLD, on a expressément dit, on voulait maintenant combattre les lits froids versus les lits chauds, d'accord ? Maintenant, dans lits chauds, la définition est quand même, c'est un peu lits chauds tiède, hein. Puisque aujourd'hui, un lit chaud, c'est grosso modo, on va dire, une occupation à peu près de 4 mois dans l'année, classifie ça en lit chaud. Un lit chaud aujourd'hui, c'est la résidence CGAS, il y a une commercialisation toute l'année, Un lit froid, c'est plutôt une résidence secondaire des propriétaires qui est fermée, on va dire, 11 mois sur 12, si tant est que le propriétaire n'accepte pas de louer son bien. Et donc, voilà un peu, dans notre PLD, on va aussi veiller à ça, parce que cette stratégie-là, elle participe aussi aux fameux 3000 habitants chaque mois de l'année, et donc avoir plus de monde sur notre commune plus longtemps pour, comment dire, se mettre dans la spirale que je vous ai expliqué plusieurs fois. Alors, dans le projet aussi, depuis des années, beaucoup d'investissements ont été faits sur les carreaux, et on pense que Arrache et la Frasse ont été un peu les parents pauvres en termes d'investissement. Raison pour laquelle on a souhaité faire un projet, mais qui était déjà, comment dire, qui a déjà débuté dans l'ancien mandat, qui est de réaménager le centre village d'Arrache. Donc là, vous avez un schéma d'attention. Ce schéma d'attention, il a pour but de à la fois revaloriser l'église par des éclairages qui soient très sympas. N'oublions pas que Arrache est quand même la porte d'entrée de la station. Donc, tous les gens qui viennent chez nous passent par la traversée d'Arrache. Donc, attacher une attention particulière à la qualité du centre d'Arrache est aussi quelque chose d'important pour nous. Et là, vous avez un schéma de principe, là aussi, ce schéma est tout à fait diffusable, hein, avec l'église, la création vraisemblablement d'un rond-point, effectivement, la création d'un rond-point qui a pour but d'être un peu, donc là on vient du bord, hein, là vous avez le cimetière, on vient comme ça, la route départementale serait légèrement déviée, notamment pour faire ralentir le flux des voitures, et avoir une multicirculation en termes d'embauche. Et là, on a la vocation de faire un parc aménagé ici, qui serait juste sur la droite, que les gens prendraient presque en pleine poire de face quand ils arriveraient. Donc avoir quelque chose de très arboré. On pense notamment délocaliser entre autres le monument aux morts, cher à mon ami Monsieur Pépin. Et des aménagements trottoirs qui n'existent pas aujourd'hui, des aménagements parking, on voit par exemple devant la boulangerie aujourd'hui, tout le monde se garde de manière un petit peu anarchique, hein. Il n'y a rien de structuré, donc on a aussi la volonté de remettre un peu d'ordre là-dedans, la valorisation de l'église par son éclairage, et ici la création d'un parking qu'on appellerait un peu covoiturage, parce que quand dans la logique de mobilité aujourd'hui, encourager les gens à la mobilité en créant un parking de covoiturage qui se ferait plutôt sur cette parcelle de terrain ici. Donc voilà les grandes lignes un peu de ce réaménagement du centre d'Arrache. Et là aussi, on a le prolongement des trottoirs, si vous n'avez pas du tout de trottoir ici, qui permettrait d'avoir un ensemble assez cohérent. Et il nous a semblé important de travailler sur ce réaménagement du centre d'Arrache.
Alors, vous avez évoqué mobilité, mais écoutez, ça tombe bien, c'est le sujet d'après. Mais si c'est pas bien fait, ça. Hein. Repenser la mobilité. Donc, par exemple, ça passe par.
Alors, dans la mobilité, effectivement, c'est un vaste sujet. Je rappelle que le FUNIFEN avait quand même pour but de travailler sur cette mobilité, sur l'espace valéant. Et je profite d'une petite parenthèse, mais je ne vais pas foutre la merde. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ce projet de l'espace valien, il a comme un intérêt. Et maintenant qu'il y a une phase politique qui est un petit peu passée, ou un moment où la politique, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut, mais moi je vous affirme que la position maintenant du maire d'Arrache, c'est que s'il y a un nouveau projet, il passera par les carreaux. Et donc, voilà, donc moi j'ai pas abandonné cette idée. C'est pas que simple, parce que ce sont des projets qui sont soumis à des aides régionales, qui sont soumis à des aides départementales. Et aujourd'hui, on n'a pas le canton de la bourse. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Et sans département, sans la région, sans l'État, sans la communauté de communes, ben, ce type de projet ne se fait pas. Donc, aujourd'hui, quand on fait un projet d'ascenseur valéen, quand on repense la mobilité, c'est complexe parce qu'il faut mettre tous les gens autour de la table Et dans la fonction publique, monde que je découvre dans le détail depuis 2 ans, je peux vous dire que c'est pas, comment dire, c'est pas simple. C'est pas simple cette affaire. Et il faut, dépenser beaucoup d'énergie pour faire avancer les projets. Et donc, voilà. En tout cas, nous, notre sujet sur le long terme, c'est de libérer le centre de station de la voiture. C'est de développer le transport collectif. Donc là, Gwen en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, en relation avec la Comcom, on a une vraie volonté de développer en particulier l'hiver les transports collectifs pour encourager au maximum les gens à laisser leur voiture une fois qu'ils sont dans la station et en priorité l'hiver. Donc là, ça c'est un axe qui plus est, j'ai presque envie de dire, sur la clientèle d'hiver, grosso modo, les gens ne bougent quand même pas beaucoup. Ils vont à Flaine, ils restent à Flaine, ils viennent au carreau, ils restent au carreau, ils vont à la Clusaz, ils restent à la Clusaz. Donc après, c'est plutôt des déplacements intrastation. Le problème d'intrastation, ils peuvent se régler par un développement, une accélération du transport collectif. Donc ça, aujourd'hui, c'est une volonté politique qui est arrêtée. Ensuite, on a toujours eu un projet qui était un projet sur l'entrée de parking à l'entrée des carreaux, qui se trouve sur la foutée de gauche. Il y a un parking où on aurait quelque chose sur l'agrandissement du parking du RIS pour doubler sa capacité, ce qui en ferait un parking éloigné. Et là, qu'on relierait aussi avec des systèmes de navettes qu'on amplifierait pour relier le centre. L'objectif aussi, c'est de dire que les touristes d'hiver puissent laisser leur voiture là pendant une semaine et utiliser, on va dire, les navettes pour. Parce que leur voiture, il faudrait qu'elle ait quelque part. Donc, ce parking du risque pour nous est un sujet. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on a des navettes gratuites. Et on a des parkings gratuits. Donc, notre réflexion est relativement simple. On serait potentiellement d'avoir des parkings en plein centre qui seraient plutôt payants, des parkings éloignés qui seraient gratuits et des navettes qui seraient gratuites. Donc, une politique contraignante, mais qui contraint l'utilisateur à laisser sa voiture. Comment dire, n'a pas utilisé sa voiture, parce que les parkings gratuits, c'est sympa, mais ça encourage les gens à foutre leur voiture dans le centre village. Donc on est plutôt sur la définition de ces axes-là. Le comment je pense que ça va sans doute se faire par des logiques de test, pour voir un peu l'appétence, comment potentiellement on peut mettre en œuvre cette politique. J'oublie pas aussi, dans le parking de RIS, nous voulons créer aujourd'hui un espace de camping-car. Là aussi, il y a un vrai besoin. Les camping-cars sont un peu n'importe où. On a aussi le même projet à Flaine, au col de Pierre Carré, un projet qui est défendu depuis des années par Patrice. Et parce qu'il y a un vrai besoin. Alors, sécuriser les traversées d'arrache et de la face. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Moi, s'il y a une revendication numéro 1 qui m'est donnée par les habitants de Lafrasse et d'Arrache, c'est de sécuriser la traversée. Charlie n'est pas dans la salle. Voilà, donc ça c'est une demande numéro 1 aujourd'hui. La vitesse de la traversée d'Arrache et de la traversée de Lafrasse. Donc on va instaurer des feux déclenchants avec des caméras qui se déclencheront, etc. dès que les gens dépasseront la vitesse. Et qui potentiellement déclencheront des amendes. Aujourd'hui, sinon, moi, j'ai pas d'autre solution pour sécuriser les traversées. Et la traversée du laïc, qui est un autre sujet, on va commencer par la traversée du village. En tout cas, la vitesse au sein de notre commune est un sujet qui me remonte extrêmement souvent de la part de la population. Extrêmement souvent. Donc, la pédagogie, en gros, ça marche pas. Ça marche pas de pédagogie. Donc voilà. Donc on va faire ce test sur les traversées d'Arrache et de la Frasse.
Alors, je me permets juste d'apporter une petite précision parce que j'entendais qu'il parle du laï. On a une difficulté supplémentaire dans ce genre de projet. Vous savez, Jean-Paul, c'est effectivement que les routes ne nous appartiennent pas. Et donc il y a un gros travail à faire avec le département et des fois, effectivement, ça prend du temps pour nos services techniques, de caler tout ça avec eux.
Tout à fait. Alors, on est presque à la fin. On va parler aussi d'un sujet qui est le sujet de flemme. La préservation de l'environnement, non ? Donc, préserver les zones agricoles. Donc, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle les champs, qui sont une zone qui était potentiellement urbanisable. Donc là, il est clair que sur ce type de zonage, l'État est extrêmement ferme, on ne discute pas. Ce sont des terrains qui sont dans la discontinuité, parfois au grand dam des propriétaires, malheureusement. Mais ça, il n'y a même pas de discussion possible. On n'ouvre pas la bouche que c'est déjà non. Donc, de toute façon, ces zones, elles seront préservées. Elles sont déjà agricoles, elles resteront agricoles. On a juste un petit projet, ici, je vais reprendre le pointeur. On est juste en réflexion sur un projet. Là, vous avez la chèvrerie qui se trouve ici. Donc, on est en train de négocier d'avoir une petite enclave ici pour créer, pour amener une ou deux autres exploitations agricoles. D'accord ? On a des demandes de jeunes agriculteurs qui veulent se réinstaller sur la commune. Et donc, Anthony, notamment, qui est dans la salle, je t'ai vu tout à l'heure. Et donc, et aussi dans cette logique de préserver les zones agricoles, on favorise le rachat de terrains agricoles par la commune. Et on essaie d'accompagner des jeunes agriculteurs pour monter leur propre projet. Donc, ça, c'est aussi une vraie volonté. Par contre, l'agriculture. C'est Loïc Moret qui disait un jour, s'il n'y a pas plus de terrains agricoles, d'exploitation agricole, il y a une raison. Oui, il y a sans doute une raison. Donc on n'a pas la culture, on n'a pas l'histoire d'un grand Morvan, par exemple. Mais n'empêche que quand on a des jeunes agriculteurs qui veulent monter des projets, on se doit quand même de les aider et de les accompagner. Raison pour laquelle, ici, on est en train d'essayer de vendre aux services de l'État le fait de créer une petite zone là, mais qui soit, on va dire, qui ne monte pas, parce que ça, c'est même pas possible, et d'un ou deux bâtiments agricoles qui viendraient entourer une zone agricole, et pourquoi pas y créer une fruitière, ou des choses comme une idée comme ça, tu vois, pour vendre des produits à la ferme direct, comme le fait d'ailleurs Laetitia, à partir de sa chèvrerie. Donc sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, on est sur quatre projets. La mairie, le centre technique municipal, l'aquacine, le gymnase du Mont-Favie, l'école et l'espace du Saint-Véry. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc même si aujourd'hui il y a des programmes via l'OPA des aides sur la rénovation énergétique des logements, sur lesquels on accompagnera via l'ingénierie, on accompagnera les habitants, nous, aujourd'hui, charité bien ordonnée commence par soi-même et on commencera par nos bâtiments publics. Alors, on a parlé d'autonomie énergétique, on a un projet de centrale hydroélectrique qui se trouve aujourd'hui où la prise d'eau se ferait au ruisseau de l'Épine. Et cette construction centrale électrique permettrait d'alimenter en électricité 3000 habitants. Donc ça, ce sont des projets qui sont écologiquement vertueux, qui peuvent être menés. On a déjà aujourd'hui de nombreux contacts. On réfléchit plutôt maintenant sur le montage. Est-ce que c'est des projets qu'on déléguerait totalement, sur lesquels on récupérerait une redevance de concession? Est-ce que c'est un projet qu'on montrait via une scène avec les opérateurs? On n'est pas encore mûr sur le montage. Donc, mais ce projet aujourd'hui, on l'a identifié et des études ont déjà été menées sur ce site. Alors, les centrales hydroélectriques, pour ceux qui en ont connu, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un bâtiment de 3000 m2, hein. C'est des emprises qui sont extrêmement modestes et qui peuvent être facilement dissimulées dans l'environnement. On a visité une, je ne sais plus où, déjà dans l'Isère, je crois. Donc, ce ne sont pas des projets qui sont consommateurs de. Surface, comment dire, au sol. Sécuriser les ressources en eau, donc on en a parlé tout à l'heure. Pour le moment, il n'y a pas de bâtiment, il y a juste aujourd'hui, des travaux qui se trouvent au Pas-à-l'Âne. ce... Non, c'est pas au panel. Non, c'est pas au tournage. Au vers le projet, pardon. Et donc, ce projet, il est vachement important. Il faut savoir qu'on a, on a obtenu, il y a 3 semaines, 750 000 euros de subvention du département donc, pour réaliser ce projet. Donc, la sécurisation en eau, on en parlera tout à l'heure avec, avec Flaine et l'agrandissement du lac de Vernon. Mais cette, cette sécurisation est vachement importante parce qu'elle va servir, j'ai presque envie de dire, on va avoir une qualité d'eau grâce à ce projet qui va être exceptionnelle. On pourrait presque même créer notre marque d'eau naturelle. Donc ce projet, c'est un projet qui est à 2 millions d'eau, qui, comme son nom l'indique, ultra-filtration, très kilo brut, on fait un une eau quasiment parfaite. Proche de près d'un niveau de qualité de l'eau minérale que vous trouvez dans les, que vous trouvez dans les magasins. Et donc ce projet, je l'ai hyper intéressant. Il est aussi intéressant pour un aspect tout bête. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le lac de l'Hérault, la ferme de l'Hérault, c'est un endroit stratégique et attractif majeur. Il faut savoir que si on n'est pas ce type de projet, on était exposé à grillager le tour de nos lacs où on puise l'eau potable et l'eau neige de culture. Parce que contamination, etc. Et à un moment, quand vous n'avez pas les systèmes de filtration de l'eau qui sont suffisamment puissants, suffisamment efficaces, ben vous détériorez l'eau brute. Et l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, vous met des contraintes extrêmement fortes pour barricader. Est-ce qu'on peut s'imaginer que le lac de l'Hérault soit barricadé? En termes d'attractivité touristique, ça fait quand même un peu désordre. Je n'ai pas dit qu'on avait fait ce projet pour préserver le lac de l'Hérault, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ça y contribue. Donc voilà, donc on est très content de ce projet-là, qui est dans les tuyaux, hein, qui... Donc d'ici en 2023, et ça, malheureusement ça ne servira pas 98% de la population, mais essentiellement les gens qui habitent sur les carreaux bénéficieront, je pense que ça va couvrir 85% je crois des habitations qui seront concernées par une amélioration de la qualité de l'eau.
Nous allons parler maintenant des domaines skiables l'hiver. Voilà, et donc.
C'est toi, c'est moi, je me suis.
Pardon ?
C'est moi, c'est Gwen, je
sais pas. Oui, c'est moi, ou toujours. Oui.
C'est moi, ok.
Le, on peut commencer par exemple à parler des renouvellements des DSP, au hasard.
C'est pas le sujet.
C'est marqué là.
Ah bon, c'est marqué là. Oui, en fait, il va se passer un truc important, c'est le renouvellement des délégations de services publics. Donc celle de, des carreaux arrive à échéance en fin 22, mais sauf qu'on a signé un avenant, donc vraisemblablement 23-24. Okay. La délégation de services publics, donc avec deux amis de la compagnie des Alpes sur le domaine de Flaine, arrive en 2029 pour la partie arrache. Le domaine de Flaine a aussi une délégation de services publics en 2025 avec le département et avec la commune de Maglan. Raison pour laquelle ça va être un sujet de réflexion qui va être extrêmement important dans les années qui viennent et sur lequel on va devoir statuer sur concrètement la future exploitation de ces domaines skiables. Donc voilà, mais j'ai pas d'autre chose, comment dire, à vous donner, il n'y a pas de scoop, puisque c'est un sujet qu'il va falloir traiter dans, dans les mois qui viennent. Alors nous aujourd'hui, en 2014, je me souviens quand on est arrivé, j'ai pris la présence de la SOREMAC, on avait 10% de nos domaines skiables qui étaient couverts en neige de culture. Je sais que la neige de culture, c'est un grand débat. C'est un grand débat sur est-ce que c'est écologique, pas écologique, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je vois mon ami Pascal Tournier qui est dans la salle, qui pourrait nous faire un cours théorique sur comment dire, l'aspect écologique du traitement de neige de culture. Et donc aujourd'hui, il y a des temps aux immémoriaux où il y a cette neige de culture est traitée avec des adjuvants. Aujourd'hui, c'est plutôt des mélanges gazeux où on prend de l'eau qui repart dans les nappes phréatiques et en circuit court. J'ai bien exposé le truc, Pascal ? Presque. Et donc, voilà. Donc cette neige de culture, fort heureusement, aujourd'hui, on a 45% du domaine skiable des carreaux qui couvrent la neige de culture, ce qu'on a fait les 6-7 dernières années, et bien, on nous en a pris. Parce que si on n'avait pas fait ce choix stratégique, on n'aurait pas les saisons de ski que l'on, comment dire, que l'on vit depuis quelques années. Donc on va continuer cette stratégie de prolonger le réseau de culture sur les carreaux. Évidemment, cette stratégie elle se fait aussi en coordination, puisque la société progressive domaine skiable, il y a effectivement une stratégie qui est parallèle, puisque la logique d'aménagement du domaine skiable, évidemment, on l'a fait en concertation permanente avec nos amis de Grand Massif domaine skiable. C'est évident, aujourd'hui, le pôle d'attractivité numéro 1 s'appelle le Grand Massif. Donc tous nos projets doivent se faire dans ce type de concertation. Je vous parlerai du lac de Vernon tout à l'heure, dans les sujets FLEN, mais qui est un sujet FLEN et carreau. Et donc, voilà, donc là je ne vais pas vous détailler ce qui va être fait, mais bon, déjà dès l'année prochaine, on va faire le raccord, ce qu'on appelle le raccord gros, qui est le grand plat qui va du bas du télésiège de Plein Soleil jusqu'au télésiège de Léron. Et on va avoir une stratégie, malheureusement, je ne sais pas comment on va le prendre, mais aujourd'hui, les projets de neige de culture, les services de l'État, aujourd'hui, notamment la direction départementale des territoires, nous imposent plutôt de faire des neiges de culture à partir d'une certaine altitude. Donc on est de plus en plus avec des contraintes de ce type, mais on n'a pas de frein pour développer la neige de culture. Donc on va continuer parce que voilà, le ski c'est encore le poumon économique, ça le sera, je pense, encore pas mal dans les dix prochaines années, mais avec des contraintes qui vont être supplémentaires. Donc il va falloir s'adapter, mais penser qu'il faut arrêter la neige de culture, etc., c'est quand même un peu accélérer la mort du ski. Donc il y a des grands débats qui s'opèrent sur ces sujets, qui a raison, qui a tort. S'il y a plus malin que nous dans la salle, moi je suis tout à fait preneur parce que il n'y a pas de vérité vraie sur ce sujet. Voilà, on va aussi refaire en 2023 le fameux télésiège de Gros. Aujourd'hui le télésiège de Gros s'arrête un peu à mi-pente. Demain, ce télésiège, la gare d'arrivée se fera en haut de Cupoire, donc à la rencontre du haut du télésiège des Molliers. Ce qui aura pour but, but évident de séparer et d'éclater les flux. Aujourd'hui, sur la piste Marmotte qui descend sur le TNCLC, on est en surfréquentation. Avec ce projet-là, on pourra éclater les flux et une partie des flux pourront directement aller à Morillon ou à Samoin grâce à l'implantation de ce TNCL. C'est un projet qui, je l'espère, ne sera pas possible pour l'hiver décembre 2022 et qui sera possible pour décembre 2023. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui un projet aussi très structurant. Encore, je répète, dans les projets que je vous présente sont des projets qui sont potentiellement possibles dans les 4 ans qui viennent. FLEN. Alors FLEN a quand même été pas mal perturbé par l'arrêt du FUNIFLEN. Puisque, avec Yoann Ravaillé, président du CIF, moi étant vice-président du CIF, on est des maires quand même assez studieux sur le dossier de FLEN, hein, Patrice. Hein. Et donc, et sous l'impulse de Patrice Bonas, qui est dans la salle, on a travaillé, évidemment, avec Frédéric Marion, avec tous les acteurs de FLEN, on a travaillé sur ce qu'on appelle le contrat station. Et donc, ce fameux contrat station, bien évidemment, il a été un peu chamboulé par l'arrêt du FUNIFLEN, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour du FUNIFLEN. Et pour autant, on ne lâche pas l'affaire. Et aujourd'hui, on a une société GMDS qui est proactive sur le domaine de FLEN, parce que FLEN, c'est aussi une station d'altitude, une station où on skie en fin de saison. Et donc, aujourd'hui, FLEN ne doit pas être le parent pauvre. Et donc là, je vais vous livrer quelques projets, évidemment, qui se construisent avec Patrice et eux. Donc voilà, donc sur FLEN, il va y avoir une résidence de tourisme qui va s'appeler Bel Endroit. Bon, ben ça, c'est des projets qui étaient déjà dans les tuyaux, hein, qui maintenant voient le jour. On a une autre résidence qui est la résidence à l'Edin, qui se trouve au pied des pistes, en bas duquel on aura aussi la l'implantation d'un jardin des neiges qui sera au pied des pistes. Sur FLAN, évidemment, ce sont des projets qui sont dans les tuyaux. Donc FLAN, ben, ça fera dans les 10 ans qui viennent après ces projets quasiment plus. Voilà, conformément à ce que je vous ai dit. Donc, mais ces deux projets-là sont des projets qui vont ouvrir. L'échéance exacte, je ne sais plus, c'est une des raisons, c'est décembre 22, non, Patrice, vous savez plus, hein, 23. Donc voilà. Sur FLAN aussi. Alors FLAN a une politique assez avant-gardiste du développement de l'été. Et depuis maintenant, quoi, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et qui a été très payant parce que la fréquentation de FLAN était très très faible en été. Et ils ont eu l'intelligence de mettre en face le pass été, qui en gros, tout est gratuit à FLAN en été. Moi, je préfère le terme tout est offert parce qu'il n'y a rien de gratuit, tout à un coup. Et donc, ça a pour but de générer, on va dire, une fréquentation sur FLAN qui est assez incroyable. Et donc la continuité de sur FLAN, c'est de travailler de plus en plus des zones ludiques. Parce qu'ils ont développé ce fonds de commerce en été. Après, un sujet aussi qui nous est cher, c'est de renforcer les liaisons navettes entre FLAN et les Carreaux. Moi, je le dis souvent, pour moi, la station de FLAN et la station des Carreaux ne sont pas des stations concurrentes. N'oublions pas que ces deux stations sont sur notre territoire, même si d'un bout de FLAN et aussi sur Maglan. Et aujourd'hui, moi, je crois énormément à la complémentarité de ces deux stations comme un grand tout qu'on doit favoriser sans vouloir se concurrencer les uns avec les autres. Comme je dis souvent, bah, quand vous êtes en vacances au Carreau, l'Office du tourisme des Carreaux doit communiquer sur l'Académie Musique de FLAN. Aujourd'hui, les gens n'ont pas. On s'en fout de savoir si les choses se font à FLAN, machin, etc. Le touriste d'été est un touriste qui bouge, qui ne reste pas sur place. Il va passer une journée à Ivoire, il va passer une journée à Annecy, il se décloisonne. Donc je pense que stratégiquement, on doit de plus en plus se mouvoir dans une logique d'un tourisme de destination. Et bien commençons, charité bien abandonnée commence par soi-même, commençons par nous. Et FLAN des Carreaux, c'est d'abord, c'est commencer par une petite action, c'est que l'année dernière, on a mis en place des navettes entre FLAN et les Carreaux, qu'on va refaire cet été. Et je pense que c'est des espèces de liaisons qui permettent aux gens de naviguer d'une station à l'autre, aux offices du tourisme qui collaborent d'ailleurs de plus en plus entre eux, y compris l'office du tourisme de Barre et Montagne, ils collaborent de plus en plus entre eux sur des actions communes. Il y a eu par exemple une application sur les chemins de randonnée et les chemins de VTT sur le Grand Massif. Moi, depuis le début, de toute façon, je suis un fan du Grand Massif. Moi, je pense sincèrement que plus le Grand Massif sera fort, plus indépendamment chacune des stations profitera de cet effet Grand Massif. Est-ce qu'on imagine l'attractivité du Carreau sans le fait qu'on soit relié à un grand domaine skial ? La réponse est non. Donc, la stratégie de renforcer le Grand Massif, etc., et de toute façon, qui part récemment, est une stratégie qui renforce les autres stations. Création d'une patinoire naturelle à FLAN, donc ça c'est aussi un très beau projet, puisque aujourd'hui on a une patinoire naturelle à FLAN, mais naturelle sans création de froid, etc. Donc une patinoire qui était limitée dans le temps. Donc là, sur FLAN, on va créer une patinoire naturelle. Et ça, c'est un très très beau projet. Et la mise en lumière de FLAN Forum, qui est un sujet qui tient à cœur beaucoup à Rosane Durand, qui fait partie de notre équipe municipale. Et à l'instar d'ailleurs de ce qui a été fait sur les Carreaux, on peut se féliciter. J'ai tout fini. On peut se féliciter de la mise en lumière du centre des Carreaux des Verts, c'est absolument fantastique. Et on a même mis un peu de sous pour que la station de FLAN aussi travaille ses aspects lumière et en particulier l'hiver, c'est quelque chose de très très important. Et donc, on va s'en mettre un peu de sous là-dessus. Et pour les Flénois, il y a d'autres projets qui sont parallèles, et notamment un projet aussi qui tient à cœur à Marie-Paul, ici présente, qui tient à cœur aux Flénois, donc Flénois habitants durables, c'est la rénovation de l'école de Flènes, qui aujourd'hui il y a beaucoup de dysfonctionnements dans cette école, dans les circuits des enfants, la mise aux normes de sécurité, etc. Donc on a dans le mandat l'intention de rénover complètement l'école de Flènes, parce que Flènes aussi, en hiver, je crois une quarantaine d'enfants, Patrice, hein, autour de ça, donc c'est pas neutre, et donc on se doit de rénover complètement cette école. Et aussi le fameux agrandissement du lac de Vernon, qui participe à la sécurisation de l'approvisionnement d'eau potable et neige de culture. Donc c'est un projet aussi qui est dans les tuyaux depuis longtemps, et qu'on essaye de voir, naître, à savoir que cet agrandissement du lac de Vernon va servir l'approvisionnement de la station de Flènes en eau potable et en neige de culture, et va servir l'approvisionnement en eau potable et en neige de culture de la station des Carreaux. Cet agrandissement de cette retenue collinaire, on sait que les retenues collinaires, parfois, elles sont soumises parfois à polémiques, hein, je ne sais pas si vous suivez l'histoire de la retenue collinaire de la Cusin, mais aujourd'hui, l'agrandissement de cette retenue collinaire est absolument indispensable à la sécurisation de l'approvisionnement en eau. Ce sont nos châteaux d'eau, les retenues collinaires. Ce sont nos châteaux d'eau. Donc pour nous, ce projet est absolument capital. Les saisonniers, donc à Flènes, on a aussi un projet pour les saisonniers qui s'appelle Étoile polaire d'eau, qui est, vous voyez, visualisé par une flèche, qui se juxtapose à un autre projet de logement saisonnier qui s'appelle Étoile polaire 1. Et ce projet, il est aussi dans les tuyaux, parce que Flènes, comme les Carreaux, on a la même problématique pour le logement des saisonniers, et donc la même préoccupation à résoudre ce problème de l'habitat des saisonniers.
Eh bien écoutez, on arrive à la conclusion de cette partie. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot? Non? Les gens sont en attente, un petit mot.
Vous avez oublié qui est donc?
Non, mais moi, juste, oui, un petit mot, ok. Mais je ne voudrais pas battre mon ami Marc Coum sur la longueur des discours. Mais comment dire? Là, vous n'avez pas. Ce sont des directions, ce sont des projets, tout n'est pas sûr et certain. Mais soyez sûr que nous, avec le conseil municipal, on se bat tous les jours avec la somme des contraintes qu'on vous a décrites. Julien vous a décrit dans son exposé, avec les moyens dont on dispose. Et donc, rien que pour ça, moi je souhaiterais vraiment. On va bientôt passer à une petite cérémonie qui me tient énormément à cœur. Et vraiment, je tiens vraiment à féliciter l'équipe du conseil municipal, l'ensemble des agents qui travaillent au service du bien public. C'est pas rigolo tous les jours. On fait souvent des réunions qui se terminent à 22h. Heureusement qu'on boit un petit coup de rouge à la fin. Mais c'est quand même pas simple. Ce sont des gens qui s'investissent à côté de leur boulot, qui donnent énormément de leur temps. Et je souhaiterais vraiment les remercier. Et aussi, si je puis me permettre, si vous pouviez juste aussi un peu les applaudir, ça me ferait plaisir.
Et bien, on va passer alors au temps suivant.
Alors, la remise de décoration. Pour cette remise de décoration, j'ai le plaisir, j'aimerais que mon ami sénateur Louis Carré monte sur scène, parce que c'est aussi symbolique d'avoir un parlementaire qui m'accompagne dans la remise de ces décorations. Et j'aimerais aussi, ma chère Jade, que tu viennes m'accompagner. À Jade, qui est la maire du conseil municipal des jeunes, elle est motivée et on est aussi très très content de l'avoir à nos côtés, parce que la reconnaissance des gens que l'on doit honorer, elle doit aussi se transmettre de génération en génération. Et l'action et la mise en place de ce conseil municipal des jeunes, il participe aussi à développer l'esprit civique. Il participe aussi à faire en sorte que la jeune génération s'intéresse à la politique. La politique dans son sens étymologique du terme, c'est la vie dans la cité. Et aujourd'hui, parfois, cette vie dans la cité est menacée. La démocratie, parfois, est menacée. Et je pense que ce type d'action menée sous l'impulse de d'Anne-Marie et je n'oublie pas Anne-Sophie également, qui sont les deux élus référents qui travaillent à l'animation de ce conseil municipal des jeunes, est pour moi absolument important. Et donc la symbolique que Jade se trouve à côté de moi, à côté de Loïc et de moi, pardon, est vraiment plus que symbolique, elle est extrêmement importante aussi dans le discours. Avant de passer la parole à Loïc, cette remise de décoration est très importante. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, des gens qui s'investissent, 2, 3, 4 mandats aujourd'hui, moi je trouve ça, moi personnellement je me suis investi pour ça depuis très longtemps, c'est mon 3e mandat, et je trouve ça, quand on découvre la chose de l'intérieur, moi je pense sincèrement, la politique fait souvent, comment dire, l'objet de controverses, de tout ce pourri. Mais le tout ce pourri ne concerne qu'une toute petite partie de la classe politique, infime, et pourtant, dans un monde où la communication amplifie tout au centuple, les raccourcis sont faciles. 99% des parlementaires sont évidemment des gens honnêtes, sont évidemment des gens qui servent la force publique. 99% des élus locaux sont des gens honnêtes, des gens qui ont le sens du service public chevillé au corps, qui travaillent, qui donnent un sens à leur vie et qui sont au service de la population. Évidemment, tout est critiquable. La critique est facile, l'art est difficile. Donc, quand on fait des conneries. On essaye de faire plus de choses bien que des conneries. Voilà. Et donc, voilà, je souhaiterais aussi que dans cette lignée, je souhaiterais donner la parole à Loïc pour appuyer. Et évidemment, je sais qu'il a appuyé ce que je dis. J'enfonce une porte ouverte. Mais encore une fois, sachez, mesdames, messieurs, qu'on est fiers de vous.